L'Évangile nous invite-t-il à nous aimer nous-mêmes ? C'est assez difficile à dire. En fait, on trouve dans l'Évangile deux types de textes. Il y en a qui poussent plutôt dans l'autre sens, en disant qu'il faut, d'une certaine manière, se haïr soi-même, comme par exemple Jean 12, 25, où Jésus dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ou encore en Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc il y a certains passages qui incitent plutôt à rejeter, à haïr sa vie, à ne pas trop s'aimer soi-même en quelque sorte. Et il y en a d'autres, je crois, qui poussent au contraire. Alors là, c'est moins évident, mais peut-être plus important. Et peut-être que le passage le plus fort à ce sujet, c'est ce que l'on appelle le sommaire de la loi. Vous savez, ce résumé de toute la volonté de Dieu par ces deux commandements que Jésus donne, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et donc, comment celui qui se haït lui-même pourrait-il aimer son prochain ? Ou celui qui ne s'aime pas lui-même serait-il autorisé à ne pas aimer son prochain, puisque Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme soi-même ? Alors donc, évidemment, et ça c'est quelque chose qui est bien dit par tous les psys d'aujourd'hui, c'est que pour pouvoir aimer l'autre, il faut d'une certaine façon au moins s'assumer soi-même et au moins un petit peu s'aimer soi-même. Et puis on trouve aussi dans l'Évangile la multitude de discours de pardon, de grâce, qui visent à nous apprendre à nous accepter nous-mêmes malgré nos défauts, malgré nos fautes, tous ces discours qui disent « tes péchés te sont pardonnés, va en paix » et qui visent justement à libérer l'humain de cette espèce de chape de culpabilité, de détestation de soi-même qui finalement n'est qu'une chose qui l'écrase et qui le rend triste et sans doute agressif. Donc oui, certainement, on trouve dans l'Évangile, je dirais, ces deux directions sur l'amour de soi-même. Alors, lequel faut-il ? Alors, certainement un petit peu des deux, ou peut-être que ça dépend des gens. En effet, peut-être qu'il y a effectivement, parmi nos contemporains, certains qui sont trop sûrs d'eux, qui sont trop égoïstes, certains qui ne se remettent pas assez en cause. Alors là, peut-être que le discours que nous avons entendu au début est là pour les inciter à se sortir de leurs préoccupations d'eux-mêmes, à aller plus loin, ne pas se satisfaire de soi-même. Parce qu'en effet, certainement que pour aller vers l'autre, pour chercher plus loin, il ne faut quand même pas trop s'aimer soi-même. Sinon, on reste dans une sorte d'auto-admiration, d'auto-satisfaction qui n'est pas très féconde. Et inversement, à ceux qui doutent d'eux-mêmes, à ceux qui sont un peu, je dirais, dans des sentiments de difficulté par rapport à eux-mêmes, à ceux-là, il faut leur redonner confiance, parce que la culpabilité et l'auto-rabaissement ne donnent rien de positif. Alors donc, effectivement, je crois qu'il faut un peu les deux, et peut-être qu'il faut un peu plus l'un ou un peu plus l'autre, suivant à qui l'on s'adresse. Et du coup, je comprends bien le discours de Jean-Baptiste. Vous savez, qui est présenté comme le précurseur de Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui est, le point de passage indispensable pour pouvoir comprendre l'Évangile. Jean-Baptiste dit simplement une chose. Reconnaissez vos fautes, premier point. Deuxième point, acceptez le pardon de Dieu. Il les plongeait dans l'eau et ressortait pour dire qu'ils en ressortaient purifiés et tout propres. Et donc le discours de Jean-Baptiste est bien cela, reconnaissez que vous êtes pécheur et en même temps acceptez que vous êtes pardonné. Je pense effectivement qu'il faut garder les deux, si vous voulez, et qu'il faut se savoir pardonner, c'est indispensable, et en même temps ne jamais se rappeler quand même qu'on est pécheur. Et il faut se savoir pécheur, parce que sinon on ne cherche rien, on n'a pas de quête, pas de désir d'avancer, de remise en cause, et que ce savoir pécheur ne nous empêche pas de se savoir pardonner, C'est-à-dire que ce péché ou ce sentiment de sa propre imperfection ne soit pas une raison de paralysie personnelle, mais au contraire de dynamisme. Donc oui, il faut les deux, et sans arrêt, nous devons rester sur cette espèce d'arête très, très fine et dangereuse, en ne tombant ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes à la fois pécheurs et pardonnés, et il faut ni être trop pécheur ni trop pardonné, je dirais. Cela dit, à part les imbéciles imbus d'eux-mêmes, il semble bien quand même que ce qui fasse le plus de dégâts, c'est le sentiment de culpabilité. Et ça, je crois que c'est effectivement très, très important. Parce que dans le fond, la vie se charge elle-même de nous rappeler sans cesse que nous ne sommes pas parfaits. Et peut-être que l'expérience la plus universelle de l'être humain, c'est celle de l'échec. C'est celle de la faute. Oui, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas fait ce que j'aurais dû. Je n'ai pas réalisé ce que j'espérais réaliser. Et certains peut-être s'en sortent, mais je crois que dans le fond, c'est quand même assez rare. Et donc certainement, c'est ça, je dirais, la chose la plus lourde à traîner pour l'humanité. Or, je crois que pour pouvoir aimer, il faut être libre. Il faut se savoir aimer et il faut se sentir pardonné. Je pense que c'est absolument essentiel et que le sentiment de culpabilité ne produit rien de positif dans une existence. Et là, je crois que le message, je dirais, de l'Évangile est absolument essentiel et la Réforme a insisté tout particulièrement là-dessus, c'est sur la grâce et sur la grâce première. La grâce qui est la chose première de l'existence et sur laquelle on doit et on peut construire toute la vie. Sur ce point, je trouve extraordinaire que toutes nos confessions chrétiennes, catholiques ou protestantes, soient d'accord sur un point. C'est le baptême des bébés. Vous savez que le baptême, ça signifie la grâce de Dieu, ça signifie l'amour de Dieu. Et de dire, voilà, on peut s'engueuler sur l'Eucharistie, si vous voulez, ou sur le pape, sur les prêtres, si vous voulez. Mais il y a une chose qui est le point de départ, qui est le socle fondamental de toute vie chrétienne, c'est que l'amour de Dieu est premier dans une existence. Et que même un bébé tout petit qui n'a fait ni bien ni mal, qui ne comprend rien à rien, l'amour de Dieu lui est donné. Et ainsi, la vie chrétienne consiste non pas à essayer de mériter l'amour de Dieu, mais la vie chrétienne consiste à apprendre à répondre à un amour de Dieu qui est premier. Donc oui, si la prédication chrétienne ne devait garder qu'une chose, eh bien je dirais cela, c'est effectivement la grâce. Vous êtes aimé, vous êtes pardonné, c'est un principe d'existence, et Dieu est un principe d'amour et un principe de pardon. Alors après, c'est vrai, je comprends qu'on puisse essayer de motiver les gens, en leur faisant peur, en disant « attention, il y a quand même un enjeu dans la vie, faites le bien, ne faites pas le mal, ne mentez pas, ne trichez pas ». Oui, évidemment, bon, il y a de la morale, mais laissons cela aux hommes, je dirais. Laissons cela aux hommes. Pour Dieu, la chose la plus essentielle, parce qu'elle est absolument vitale, c'est l'amour qui est premier et inconditionnel. Et c'est pourquoi je vous ai lu ce passage extraordinaire de la femme pécheresse en Luc 7, avec ce verset qui est tellement révolutionnaire et tellement contraire, je dirais, à la mentalité humaine, que tous les traducteurs le mettent à l'envers en se disant que le texte a dû se tromper, que Jésus a dû bafouiller. Où Jésus dit bien, je te le dis, si il lui a été beaucoup pardonné, non plutôt, il lui a été, c'est parce qu'il lui a été beaucoup pardonné qu'elle a beaucoup aimé. Alors que tous les traducteurs veulent le mettre dans l'autre sens en disant « Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé », comme s'il fallait aimer pour que Dieu nous pardonne, comme s'il fallait être bon pour mériter l'amour de Dieu. Mais Jésus dit bien le contraire, c'est le pardon qui est premier. Et moi je peux aimer parce que je me sais pardonner, je peux aimer parce que je me sais aimer. Et Jésus d'ailleurs dans tout ce texte va dans ce sens avec la parabole des débiteurs. C'est celui à qui on a remis la plus grosse dette, qui aimera le plus son maître. Et il dit ensuite, celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Donc tout ça est évident.
Mais voyez-vous, c'est tellement compliqué pour l'être humain d'imaginer une chose pareille que les traducteurs, même tous des bons chrétiens, mettent la phrase à l'envers et continuent de nous dire « Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé », alors que c'est bien le contraire. Donc effectivement, nous pouvons aimer, nous pouvons pardonner si nous nous sentons aimés et pardonnés. Parce que l'amour, le sentiment d'être aimé, le sentiment d'être pardonné, je dirais de se sentir bien, c'est la condition fondamentale même pour vivre. L'amour, c'est le carburant de l'existence. Alors ça, on le voit. On le voit par exemple chez les jeunes mariés. Ils sont sympas, les jeunes mariés, ils sont merveilleux, ils sont aimés, l'un aime l'autre, ils se sentent aimés, et c'est toujours des gens très agréables. C'est rarement des gens acariâtres et désagréables, agressifs, méchants, etc. Les jeunes mariés, c'est des gens agréables. Pourquoi ? Parce qu'ils se savent aimés. Et c'est merveilleux de se sentir aimé. C'est pareil pour les enfants. Je dirais, les enfants aimés, en général, ben, tout va bien. Les enfants agressifs ou les jeunes délinquants, etc., ce sont pratiquement toujours des gens qui ont eu une carence au niveau de l'amour. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants mal aimés sont presque toujours des enfants qui ont des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il suffit d'être aimé pour ne pas en avoir, mais en tout cas, quand on n'a pas d'amour, ça pose beaucoup de problèmes. Donc je crois que ça, c'est une évidence. L'amour, c'est le carburant de la vie. C'est son engrais, je dirais, c'est sa nourriture, c'est la source d'eau dont nous avons besoin, sans quoi notre vie devient un buisson d'épines, un cactus, sans quoi notre vie devient un désert de la mort. Alors donc, nous en avons besoin et nous recherchons tous l'amour d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a l'amour humain. Et l'amour humain, c'est très bien. Je crois que c'est ce qui sauve l'humanité, évidemment. C'est ce qui sauve l'humanité. L'amour entre l'homme et la femme, quelqu'un qui devient amoureux, ben, il devient meilleur. Voilà. Et un enfant, des parents qui aiment leurs enfants, ils deviennent meilleurs. Je pense que l'amour conjugal, l'amour parental ou l'amour filial est ce qui sauve l'humanité parce que enfin il y a là quelque chose qui touche à l'amour. Mais en même temps, cet amour humain, c'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu insuffisant. C'est un petit peu insuffisant parce que même dans ce monde, l'amour inconditionnel est total et rare. Alors les enfants, on leur dit, vous savez, vos parents vous aiment, l'amour des parents est merveilleux. Pourtant, les enfants, parfois, doutent de l'amour de leurs parents. Ils se disent, peut-être mes parents ne m'aiment pas ou ne vont pas m'aimer parce que j'ai eu une mauvaise note, parce que j'ai raté ceci ou cela. Et donc, les enfants doutent de l'amour de leurs parents. Ou parfois, les parents s'énervent et grondent leurs enfants, les traitent désagréablement. Et l'enfant se dit, tiens, ils ne m'aiment plus. Et on leur explique tellement que l'amour des parents est total qu'ils se disent « j'ai dû faire quelque chose pour qu'ils ne m'aiment pas et c'est de ma faute ». Et là, on tombe dans un cercle vicieux extrêmement grave. Et donc, peut-être est-il bon, justement, de dire « vous savez, l'amour humain, eh bien, c'est nourrissant, mais il n'est jamais parfait ». Et même, je dirais, l'amour dans le couple est une chose formidable et heureusement, il y a de nombreux fruits de gratuité, de grâce, de bonté, d'amour, de générosité qui nourrissent le couple. Mais il y a aussi des moments où on a l'impression que l'autre ne vous aime pas ou des moments où on a du mal à l'aimer. Et des moments, c'est difficile. Et ainsi, vous voyez, l'amour humain, il est bien, mais il n'est jamais total. Et on ne peut jamais, je dirais, se reposer pleinement dedans en disant « c'est un amour sans aucune question ». C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel d'avoir une source d'amour illimitée, une source d'amour inconditionnelle, totale et absolue, cette source d'amour que les croyants trouvent en Dieu. Et que donc le problème, voyez-vous, ce n'est pas tant de savoir si on peut s'aimer soi-même ou pas, le problème c'est bien de se savoir aimer, apprendre à se savoir aimer. Et on ne peut pas donner de l'amour si on ne se branche pas soi-même sur une source d'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas une conduite morale. Si vous voulez, il faut que j'aime. Mais l'amour, c'est une logique d'existence. Aimer et être aimé, en fait, c'est les deux pans d'une même réalité. De même que pardonner et être pardonné. Tout ça, c'est une même réalité. C'est-à-dire que l'amour, c'est une réalité qui circule comme le sang dans le corps ou comme l'eau dans les plantes. L'amour, c'est une sorte de logique, si vous voulez. Et en fait, la seule chose que puisse faire l'être humain, c'est de construire sur l'amour. C'est-à-dire de se savoir aimer et d'être capable d'aimer. C'est-à-dire que de toute façon, ce n'est que sur l'amour que l'on peut vivre. L'amour est créateur en soi et il faut le laisser œuvrer en soi. Et quand l'amour travaille dans un être, eh bien ça transforme cet être dans un être d'amour. C'est pourquoi il ne faut pas mettre, je dirais, la charrue avant les bœufs. Et il ne faut pas dire à quelqu'un « tu dois aimer, il faut que tu arrives à aimer ». Mais il faut d'abord que cette personne se sache aimer. Et après, elle pourra aimer. C'est ce que dit l'Évangile, on ne cueille pas des bons fruits sur des ronces, on cueille les bons fruits sur les bons arbres. Et donc il faut d'abord que l'arbre soit bon. C'est pourquoi nous ne prêchons pas de morale dans ce temple. Je ne dis pas « vous devez faire ceci ou vous devez faire cela ». Je vous dis une seule chose, vous êtes aimé. Et essayez de vous mettre dans la tête que vous êtes aimé et que c'est l'amour qui est à la base de votre existence. Ça, c'est dans ce beau passage de Jean 15, où Jésus justement montre cet amour qui circule, où il lui dit « Moi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et comme le Père m'aime, moi je l'aime. Et comme moi je vous aime, aimez-vous les uns les autres. » C'est-à-dire que vous voyez que l'amour est cette espèce de réalité qui doit circuler dans la vie. Bon, mais tout cela, c'est un peu théorique. Je pense que vous êtes d'accord, effectivement, oui, il faut aimer, il faut se sentir pardonné, il faut accepter la grâce. Et en fait, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple parce que, même si nous le croyons intellectuellement que Dieu nous aime et nous pardonne, comment arriver à s'en convaincre vraiment ? Et comment arriver à vraiment l'intégrer, je dirais, cette réalité de la grâce ? Alors oui, dans les églises, nous le répétons, vous êtes pardonné, vous êtes aimé. On dit oui, c'est ça. Mais ensuite, est-ce que vraiment nous arrivons à vivre comme des gens pardonnés ? D'autres disent, c'est facile, évidemment, le pardon, c'est commode de se savoir pardonner. Mais non, c'est extrêmement difficile d'accepter de ne pas se sentir coupable, d'accepter de ne pas s'en vouloir de ses fautes, de ses manquements, d'accepter de... je dirais, de ne pas souffrir du jugement des autres, de ne pas rester sans cesse dans le « je devrais, j'aurais dû », d'accepter de se libérer de tout cela. C'est extrêmement difficile. Et pourtant, c'est essentiel. Alors, vous savez, la vie est complexe et ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas un commutateur, coupable, pas coupable. Nous sommes tous un petit peu dans les deux et nous nous sentons tous un peu coupables et nous travaillons tous à accepter de nous sentir pardonnés. Et donc ce que nous devons, c'est apprendre à progresser dans ce domaine, à avancer et aller petit à petit, comme une plante pousse, arriver à grandir, si vous voulez, dans la grâce, dans l'amour et dans le pardon. Et en même temps, c'est le seul chemin, vous disais-je, de même que dans ce texte du lavement des pieds, le début du texte qui n'est jamais commenté, où l'on voit Pierre qui refuse que Jésus lui lave les pieds. Justement, laver les pieds, ça veut dire pardonner les fautes. Hein. Pierre refuse en disant « non, pas question ». Jésus lui dit « si tu n'acceptes pas cela, tu n'as pas de part avec moi ». Et donc, c'est ça que nous devons vraiment apprendre à accepter que Jésus nous lave les pieds, accepter que Dieu nous pardonne. Alors concrètement, comment faire pour progresser là-dedans ? Eh bien, je dirais que d'abord, il faut... se le dire et se le redire. Se l'entendre redire le plus souvent possible. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre, je dirais, de la marteau-thérapie. On tape dessus, boum, 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 boum. Il faut que ça rentre dans la tête. Et donc, venez à l'église. Tous les dimanches, depuis 2000 ans, les chrétiens font des sermons très édifiants, etc. Mais il y a une chose qui est dans toute liturgie chrétienne depuis 2000 ans, c'est la confession des péchés et l'annonce de la grâce. C'est tout. Un culte chrétien, ce n'est peut-être rien d'autre que cela. Confession des péchés et annonce de la grâce. Vous êtes pardonné. On a du mal à le croire, mais il faut se l'entendre redire. Tous les dimanches, quand on vous le redit, petit à petit, ça peut faire son chemin. L'autre chose, c'est de se l'entendre dire par quelqu'un d'autre. Parce que soi-même, on peut essayer de se dire « Oui, je sais, je suis pardonné, je vais essayer de ne pas m'en vouloir. Bon. » Mais se l'entendre dire par quelqu'un d'autre, ça a beaucoup de force. C'est encore le rôle du pasteur, et plus encore du prêtre, et peut-être c'était une des vertus fondamentales de la confession dans l'Église romaine, que ce soit quelqu'un d'autre qui vous dise « Vous êtes pardonné ». Et quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le dit, eh bien ça prend, je dirais, plus de force. On y croit un petit peu plus, je dirais. Troisième chose efficace, je dirais, et très pratique, c'est la valeur de la Bible. Je crois que l'Écriture peut nous aider à avancer à grandir dans cette idée que nous sommes aimés et pardonnés. D'abord parce que la Bible est remplie, bourrée à craquer de textes qui nous disent la grâce et l'amour de Dieu. Dans l'Évangile, il n'y a que ça. Et donc, lisez l'Évangile, et n'attendez pas simplement le dimanche pour qu'un pasteur ou un prêtre vous dise « la grâce vous est donnée », mais que tous les jours, le plus souvent possible, ce message de grâce, de pardon, d'amour, soit un compagnon permanent de votre existence, pour que petit à petit, ça devienne quelque chose d'intégré et de naturel. Et d'autre part, dans la Bible, il y a encore autre chose, c'est que la Bible nous raconte aussi l'histoire de plein de gens. Et ce que je trouve formidable dans la Bible, et ça je le découvre de plus en plus en faisant l'école biblique avec les enfants, c'est que les personnages de la Bible, mis à part Jésus, eh bien, ils sont souvent pires que nous. Ils font plein de péchés, plein d'horreurs, des crimes, des manquements, des reniements, des trahisons, des adultères, tout y passe. Eh bien, quand je vois tous ces gens de la Bible, je trouve que ça c'est génial. Vous voyez, la Bible n'a pas essayé de mettre en œuvre des gens parfaits, qui sont tous beaux, tous bons, tous pieux, tous saints, etc. Il n'y a pas un saint dans l'Écriture. Je dirais tous, même Abraham, le père de tous les croyants, qui livre sa femme pour coucher avec le Pharaon en mentant et en prétendant que c'est sa sœur. Enfin, après, vous allez me dire que c'est l'exemple pour notre jeunesse. Et je pourrais continuer de vous citer des exemples et des exemples. Les gens dans l'Écriture, ce sont tous des affreux pécheurs. Et pourtant, Dieu les aime. Et pourtant, le plan de Dieu passe par eux. Et pourtant, l'histoire sainte, c'est eux qui l'ont écrite. Eh bien, je dirais, ça me rassure. Je dirais finalement que quand je me regarde, je ne me trouve pas terrible, mais quand je vois certains autres, je me dis finalement, je ne suis pas si mal. Je me dis que comme pasteur, je ne suis peut-être pas très bon, mais quand je vois les autres, je me dis, je ne suis finalement pas trop mal. Et c'est vrai dans tous les domaines, et même avec les gens de la Bible. Donc je dirais, ça rassure. Il y a pire que moi. Et même les pires, Dieu les accepte, et il fonctionne avec eux. Et donc, ça me donne confiance, je dirais. On voit ainsi que Dieu, dans cette histoire de la Bible, agit avec ses faibles et avec ses pécheurs. Et même, il agit d'autant plus qu'ils sont faibles et pécheurs. La Bible n'a pas été écrite, je dirais, l'histoire sainte n'a pas été faite par des surhommes, mais par des gens faibles. Et c'est ce que dit Paul quand il dit, quand Dieu le dit à Paul plutôt, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Et ainsi dit Paul, « Je me glorifierai même plus volontiers de mes faiblesses que de mes forces, parce que c'est là que Dieu peut agir. » Donc oui, la Bible nous montre le miracle de la puissance de Dieu. Que Dieu peut arriver à faire des choses extraordinaires avec les êtres les plus tordus et les plus pourris. Et que Dieu n'a pas du tout besoin de notre perfection. Mais Dieu arrive très bien à faire passer les plus belles choses du monde par des chemins courbes et tortueux, par des êtres pécheurs et imparfaits. Et malgré nos faiblesses, eh bien Dieu peut accomplir, je dirais, son destin. Donc faisons confiance à Dieu qui ne nous demande pas du tout la perfection, mais qui nous demande simplement de le laisser travailler en nous. Et puis enfin, le dernier point, c'est la prière. Nous pouvons croire que Dieu peut lui-même, en nous, créer quelque chose, que Dieu peut mettre en nous de la confiance, que Dieu peut nous remplir d'espérance et d'amour. Et la prière, c'est s'exposer volontairement à cette source de l'amour et à cette puissance créatrice de Dieu qui peut en nous régénérer notre grandeur d'enfant de Dieu, aimé par Dieu et aimé inconditionnellement. Parce qu'en effet, Dieu est amour, mais Dieu, c'est pas simplement l'amour en tant qu'idéal philosophique. Dieu est aussi une puissance d'amour. Et donc je crois que quand on cherche la présence de Dieu, quand on prie Dieu, quand on s'expose à lui, eh bien on est comme, je dirais, comme une fleur qui s'ouvre au soleil, comme quelque chose qui tout à coup est exposé à un rayon extraordinaire de vie, d'amour, de bonté, de grâce, de douceur, de générosité. Et ça, c'est fondamental, effectivement, pour vivre, comme je vous le disais. Alors on peut chercher des bribes d'amour à gauche ou à droite, mais nous pouvons savoir qu'il y a en Dieu une source inconditionnelle, infinie et ultime d'amour qui est offerte gratuitement et qui est simplement là pour qui veut s'ouvrir à elle. Amen.